Très heureux d'être avec vous. Voilà, je ne sais pas si ça marche. Voilà, comme ça. Voilà. Merci Emmanuel pour ce qu'il a dit. C'est intéressant. Enfin, merci pour toi aussi. C'était super. Parce que, comment je ne sais pas trop. Enfin, le thème, le sujet que je vais vous donner, le titre que je choisis, qui n'est peut-être pas celui que vous auriez choisi pour ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est l'ignominie. L'ignominie. On a parlé avec certaines personnes ensemble. L'ignominie, qu'est-ce que c'est? Et alors, on pourrait trouver un autre titre. Vous allez dire, ça n'a pas de rapport, mais bon, vous allez voir, enfin, ça a du rapport. C'est, quelles sont mes zones d'ombre? À votre avis, quelles sont mes zones d'ombre? Et je vous dirai aussi quelles sont vos zones d'ombre. J'ai le sentiment parfois, quand je suis en communion avec le Seigneur, comme vous êtes en communion avec le Seigneur, d'être comme un enfant avec son père ou sa mère, et qui est têtu, et qui dit « Mais papa, tu te trompes, c'est moi qui vois bien clair. Hein? » Et on a tendance à être comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'ai tendance à être comme ça. J'ai pas mal de vie chrétienne déjà, bien une trentaine d'années et tout ça, mais ce genre de choses m'arrive encore. Enfin, j'ai l'impression que je serai encore avec ce boulet jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être que le Seigneur fait des choses en moi pour que ça aille mieux, mais bof, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est super. Hein? Je pourrais vous donner un autre titre. Quel est votre principal ennemi? Quel est mon principal ennemi? Alors vous allez répondre Satan, bien sûr. Ben non, c'est pas Satan, notre principal ennemi. Ouais, c'est le moi, ouais. Bon, vous êtes quand même des chrétiens engagés. Je dirais pas que c'est le moi, c'est pas mon moi qui est le plus important, qui est le plus dangereux. C'est mon orgueil. C'est le moi. Mais on va lui donner un nom qui est le sien, mon orgueil. Ouais, écoute, Étienne, tu te regardes dans la glace, tu te dis quand même, t'es un beau mec, hein. Quoi, pourquoi vous riez, hein? Je parlais spirituellement, bien sûr, voyons. Hein? Bon. Nos zones d'ombre. Nous avons tous nos zones d'ombre. Et, manque de peau, on a toujours tendance à penser que, bof, c'est une petite ombre de rien du tout. Et finalement, je crois que le Seigneur nous amène à comprendre qu'elle est un peu plus ténébreuse que ce qu'on imagine, cette zone d'ombre. Oh, elle ne nous paraît pas vraiment importante. Mais finalement, le Seigneur, il est tout le temps dessus. Mais le Seigneur, tu pourrais me laisser un petit peu tranquille avec ce truc-là, hein, ou avec ce truc-là. Hein. On a des zones d'ombre et on dit, Seigneur, jusque-là, tu peux aller jusque-là. Mais s'il te plaît, ne va pas plus loin. Comprenez? On a ce genre de choses. Et on s'est dit, mais tu ne m'aimes pas, Seigneur. Parce que si tu, un peu comme un enfant qui dira à son père, à sa mère, tu sais, tu ne m'aimes pas parce que tu ne me donnes pas le cadeau que je veux. Hein? Voilà. Vous comprenez? On a l'impression que spirituellement, on n'est pas plus loin qu'un enfant dans le cheminement spirituel. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, hein, pas pour vous. Voilà. Bon. Donc, mes zones d'ombre. Et vous vous souvenez de ce verset, vous le connaissez, c'est celui de Jean, hein, chapitre, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, il nous est dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, Dieu et lumière, nous purifie de tout péché. » C'est-à-dire qu'il y a une disposition d'esprit qui nous amène à dire « Nous voulons marcher dans la lumière. » Et quand on marche dans la lumière, il y a des zones d'ombre. Et les zones d'ombre, pff, Dieu il prend son gros projecteur et il vous vise votre zone d'ombre. Vous en avez une, plusieurs, et moi j'en ai d'autres, c'est pas les mêmes. Mais chacun a droit à son petit projecteur particulier, de la part de Dieu. Voilà. Mes frères, nous pouvons essayer de ne pas mentir entre nous. Et c'est ça qui fait la communion fraternelle dans une assemblée. C'est que si jamais on arrive à ne pas avoir peur, comme des enfants, quand ils se chamaillent avec papa et maman, et qu'ils se tapent de temps en temps dessus, ou même ça peut aller loin, hein. Et finalement, ils arrivent finalement par s'aimer, et à reconstituer, grâce à papa et maman, hélas, parfois il n'y a pas de papa, quelquefois il n'y a pas de maman, quelquefois il n'y a même personne, mais bon, dans une famille type, si vous voulez, il y a toujours cette situation où finalement, l'amour des parents, entre eux, d'abord, avec leurs enfants, fait que bah, ça va aller mieux. Et puis les enfants, ils ont pu se chamailler, vraiment se détester, dire « je veux ta mort », etc. Enfin, des choses abominables. Les enfants vont finir par, bon, dans leur croissance familiale, ils vont finir par se développer et vraiment être spirituellement ensemble, comme dans une assemblée. Le modèle d'une famille, c'est le modèle de l'assemblée. Et le modèle de l'église locale, c'est le modèle de l'église universelle. Voilà, voilà. Alors ce titre, moi j'ai pris ignominie. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner une de mes zones d'ombre à moi. Mais je pense que vous, vous l'avez aussi. Alors ça me rassure, parce que je me dis, j'ai une zone d'ombre, mais eux aussi, ils en ont une. C'est même un petit peu comme un enfant, vous voyez. Il dit, ouais, moi, papa, moi, j'ai ça comme petit défaut, mais t'as vu, ma petite sœur, elle est comme ça. Hein. Alors ça va, hein. Chacun a son petit truc, et comme ça, les vaches sont bien gardées. Hein. On est content et on reste avec sa petite zone d'ombre en disant qu'on a le droit. Ce qu'il faut, bien sûr. Eh bien, en somme, mes frères et sœurs, on ne veut pas se mentir. On peut se regarder en sachant qu'on est pécheur, mais en sachant qu'on est des pécheurs sauvés par grâce et que c'est comme ça qu'on peut être dans la lumière. Voilà. Donc c'est là que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est une histoire de sincérité. Sincérité, c'est pas dire, oh, vous savez, moi, regardez-moi, j'ai aucune zone d'ombre. Celui qui vous dit ça, et ça a été évoqué, c'est un prophète qui a eu une révélation, et comme il n'avait pas de zone d'ombre, ben voilà que l'ange lui est apparu. Hein. Vous savez que Bernadette Soubirous, c'est à la 19e fois, la 19e révélation, que tout d'un coup, elle a su que c'était l'Immaculée Conception. On peut se poser la question si elle n'a pas été un petit peu briefée par d'autres pour prononcer un truc hérétique et qui a développé et qui se développe dans d'autres religions que la nôtre. Enfin, nous n'avons pas de religion, nous aimons le Seigneur. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, ensemble, nous pouvons essayer de ne pas mentir. Entre nous. Alors, je vais vous donner ma petite zone d'ombre. Enfin, le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Vous avez remarqué, c'est ça en fait qui est merveilleux. Le Seigneur, il est avec sa zone d'ombre, il met son gros projecteur dessus. Et je dis, Seigneur, mais si tu m'aimais, tu ne ferais pas ça. Un peu comme un enfant dit à son père ou à sa mère, si tu m'aimais, tu t'arrêterais de temps en temps de dire ce qui ne va pas chez moi. Fais tes devoirs avant d'aller jouer. Sois gentil avec ta petite sœur. Mais bon, et puis moi je pense que j'ai raison. Vous voyez, c'est ce genre-là, on est comme ça. La lumière de Dieu, on a tendance à dire, bon, tu te trompes, c'est moi qui ai raison. Voilà. Et le Seigneur, il pointe ça. Alors on se dit, mais si tu pointes ça, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il est plein d'amour pour nous. Et que lui, il ne veut pas qu'on reste sur notre jusqu'à. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, Seigneur, tu peux aller jusque-là, mais pas plus loin. Et le Seigneur va pointer sur ce jusque-là pour qu'il puisse enlever ce jusque-là et qu'il puisse aller plus loin avec nous. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce que justement, il nous aime tellement qu'il veut nous faire parvenir à l'état de maturité parfaite qu'il veut pour son enfant. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, et puis, c'est comme ça qu'on fait partie de la famille de Dieu. Hein hein voilà. Bon. Alors, moi, ma zone d'ombre. Je crois que vous l'avez aussi. Enfin, normalement, ce n'est pas une zone d'ombre quand on est petit, quand on est enfant. Comment tu t'appelles ? Ah, ben, je m'appelle un tel, oui. Ah, oui. Et ton papa ? Ah, mon papa, il est pompier. Ah, oui. Et ma maman, elle fait ceci, elle fait cela. Et l'enfant, il s'identifie, il devient quelqu'un parce qu'il a un nom. Un nom. je m'appelle un tel. Il y a des gens qui n'ont pas le privilège de faire ça. Une famille, historiquement c'est connu, hein, une famille, toute une famille, cousins, cousines, oncles, tantes, ils se sont réunis ensemble. Et ils ont décidé, devinez quoi, de ne pas avoir d'enfants. Parce que s'ils avaient un enfant, l'enfant porterait leur nom. Et ils ont décidé de ne pas avoir d'enfant à cause de leur nom. C'était en Allemagne, après la guerre 40. Ils n'ont pas voulu, tellement le nom était devenu un nom ignominieux. Je ne vous dis pas autre chose, vous pouvez deviner. Hein, ouais. Imaginez des gens qui ont un nom qui est pour eux de l'ignominie. Ça peut arriver. Il y a des gens, ils vont chez le maire, monsieur le maire, pour faire changer leur nom parce que leur nom n'est pas terrible. Ça a une connotation où on peut se moquer d'eux, etc. Ouais. Mais il y a des gens qui ont des noms parfois, ils ne voudraient pas s'appeler comme ça. Ils s'appellent comme ça. Ignominie. L'ignominie. Ignominie, ça veut dire, quand vous reprenez le terme, ça vient du latin, hein, nom, enfin la racine nom, N-O-M, et ça vient du sanskrit ou du grec, enfin la même chose, nom, nama. Hein. Et donc, ignominie, c'est le sans-nom, ceux qui sont sans nom, sans renom, en fait, ceux qui n'ont pas de... Ils ne peuvent pas s'appuyer sur un renom lié à leur nom. Alors moi, je suis fils de mon père, et je suis très fier d'être fils de mon père. Je suis fils de ma mère, et je suis très fier d'être fils de ma mère. Et quand je vous dis ça, eh bien, c'est un peu ma zone d'ombre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis quand même, je suis un petit peu trop fier de mes origines. Pourquoi ? C'est normal quand on est enfant d'être fier d'être fils de papa et maman. C'est normal, ça fait partie de la croissance. Et à un moment donné, quand vous êtes adulte, donc vous voyez, j'ai encore du mal à être adulte, on est encore fier. Et je me pose la question, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas trop fier d'être fils et fille, fils de mon père et de ma mère, et de ma mère, hein? C'est... Non, quand des gens vous rencontrent, ah, vous êtes le fils d'un... tout d'un coup, on a les chevilles qui gonflent. Mais ce n'est pas ça qui devrait nous faire, nous fonder. Vous comprenez? C'est normal pour un enfant. Quand il devient adulte, et s'il est converti, c'est plus son nom là sur lequel il se fonde. S'il se fonde sur ça, ça ne va pas. Je suis issu d'une famille dont... comment dire? Mon père était pasteur, mon grand-père était pasteur, mon arrière-grand-père était pasteur. C'est la famille machin, ouais, super. Ouais. Et vous, pour vous, c'est la même chose. Hein. Je sais que certains d'entre vous ont un nom qui est un nom signifiant dans le monde évangélique. Est-ce qu'on est prêt à avoir l'ignominie? C'est-à-dire, comme Jésus, qui était le Fils de Dieu, et qui s'est retrouvé sans nom. Enfin, si, Yeshua, bien sûr, mais Yeshua, c'est un nom, hein, de Jésus. C'est pas le seul. Vous savez que dans l'islam, il y a 100 noms de Dieu. Il y en a 99, et il y en a un secret qu'on ne connaît pas. C'est bizarre, hein? Mais finalement, quand on réfléchit, on se demande quel est le nom de Dieu. Vous allez voir, on va en discuter. Le nom de Dieu. Dieu, il a abandonné son nom. Il a abandonné tout ce qui pouvait s'accrocher à un certain prestige lié à son nom. Ben, je me demande si moi, ce n'est pas mon problème, justement. Et je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas votre problème? Parce que, nous, on fait partie de l'église évangélique d'Hasbrook. Oh, c'est bien, c'est une très bonne... Ah non, mais nous, on connaît beaucoup plus l'église évangélique ou l'église catholique ou l'église de ceci. Je me réclame d'être presbytérien ou d'être du côté de la lignée de John Wesley. Et d'autres disent, ah, moi, je suis d'Apollos. Hein? Et d'autres qui disent, bah, non, moi, je suis de l'apôtre Paul. Ah, oh, mais non, mais vous êtes trop... Moi, je suis de Christ. Et chacun va chercher un nom pour s'identifier à ce nom au lieu et d'en faire un symbole et finalement dire je suis chrétien. Mais c'est pas ça qui fait qu'on est chrétien. Ce qui fait qu'on est des chrétiens, c'est de se dire à chacun, moi tu sais, j'ai mes zones d'ombre. J'ai besoin de toi pour que tu pries pour moi. Et je veux prier pour toi. Et je ne vais pas te dire que tu es plus pécheur que moi, parce que ça, j'en sais rien du tout. Qui est plus pécheur chez nous ici, l'un que l'autre? Alors là, on est mal parti. Hein, on est mal parti. Donc voilà, un nom. Et il y a des gens qui n'ont pas de nom. Il y a, dans l'église de Saint-Denis, là où il y avait un pasteur que je connais bien, et qui disait un jour qu'il y en avait un, il était SDF pratiquement, il est rentré dans cette assemblée, il est devenu un enfant de Dieu. Et il dit, mais moi, à part vous, je n'ai pas de nom. Vous êtes ma famille, vous êtes mes amis, vous êtes mes frères et sœurs. Si je n'avais pas vous, je ne serais rien. Alors on peut comprendre, c'est bien. Mais attention, je suis de l'église de Saint-Denis, après ça va être. Je suis de ceci, de cela. De qui nous réclamons-nous? Qu'est-ce qui fait que l'on se fonde sur notre nom ou sur un autre nom? Alors, je vais faire un petit sketch si vous voulez, mais ça a déjà arrivé. Imaginez que vous êtes candidat à un poste dans une grande société, et puis vous avez une lettre de recommandation qui date d'un certain temps, et puis vous dites, ça y est, je vais me présenter. Vous arrivez près du bâtiment, super bâtiment, moderne, etc., super machin, et vous rentrez près à la porte, et à la porte sur la gauche, là, qu'est-ce que vous voyez? Un SDS. Il sent l'urine. Il sent l'alcool. Il est complètement cassé et tout. Et alors, c'est... Ça vous choque, hein? Vous avez l'impression que... On s'identifie pas à lui, mais c'est vraiment choquant, quoi. Là, l'immeuble, tout est beau, et puis il y a ce truc-là, qui est là, juste là pour... Oh là 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 là. Il n'y a pas de nom. Alors vite, on monte dans les étages, hein, puis on appuie sur l'ascenseur, on arrive à l'étage où il faut, et puis on trouve le monsieur qui vient vous dire bonjour et qui pour que vous avez, enfin vous venez pour la candidature, oui. Et c'est le petit monsieur avec son costume vert foncé, il vous dit vous avez votre lettre de recommandation, oui. Je tenez là, voilà la lettre de recommandation. Et puis vous voyez ça. Vous voyez son visage qui commence à... Et puis votre costume vert foncé, là, il vous dit, il vous regarde avec tristesse, il dit, vous avez lu SDF qui est en bas, là? Oui, ben, vous vous réclamez de monsieur un tel, de la haute, hein, avec un nom à particules et tout, ben, c'est lui. Ouais, faute grave, professionnelle, sa femme et ses enfants l'ont laissé tomber, il est fini. C'est fini. Fini. Il n'y a plus rien. Plus rien. De temps en temps, il dit, je lui donne un bout de sandwich. Voilà, je lui achète un sandwich. Mais... Le gars, il a tout perdu. Il est devenu rien. Pas de nom. Rien. Perte d'identité. Perdre son identité et sa notoriété casse la vitalité de notre société. Si tu ne peux plus ce jour t'accrocher à ta fonction, tu perds alors l'illusion de servir encore un jour. La triste situation de ce monde d'aujourd'hui, c'est bien le mépris, l'oubli de l'humaine condition. On a besoin de fondement. Et on peut le perdre. Imaginons les frères et sœurs persécutés. Vous savez comment ils vont faire, les gens, pour vous persécuter? Ils vont mettre un pain de drogue dans votre valise, puis après les douaniers vont ouvrir, puis ils vont dire, mais vous êtes un dealer, hop, chopé, en prison, clac, vous disparaissez, vous êtes au Venezuela, par exemple, c'est fichu. Vous n'avez rien fait, hein, mais on vous l'a fait. Ignominie complète. Ou alors on va vous traiter de pédophile. Aujourd'hui, c'est de bonne hein. Vous avez des gens qui, bon, bien sûr, bon, mais vous comprenez que dans une société pourrie, Un bon chrétien, une bonne chrétienne peut se retrouver à un moment donné dans des situations d'ignominie. Est-ce qu'on serait capable, est-ce que je serais capable que l'on salisse mon nom et ainsi le nom de ma famille? Est-ce qu'on serait capable, à cause de Dieu, à cause du nom de Dieu? Ça peut arriver. Ça ne nous arrive pas encore, hein, mais ça arrive dans beaucoup de coins du monde. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Il y a des gens qui sont salis. Et puis quelquefois, on en entend parler, puis on dit, mais... Et puis on dit, c'est du lard ou du cochon. Peut-être qu'effectivement, il a fait ça ou qu'il a fait ça. Et vous êtes dans une incertitude sur cette personne. Et elle perd sa notoriété, son fondement, sa solidité. Comment ils font, nos bien-aimés, quand ils sont dans ces situations-là? Ils n'ont plus qu'une seule chose. Ils n'ont plus de nom à eux. Ils ont le nom de Dieu. Est-ce qui les fonde? Est-ce qui les rend solides? C'est ce nom de Dieu. Donc, je reviens à ma zone d'ombre. Qu'est-ce qui me fonde d'être fils et fils de quelqu'un ou d'être un des fils de Dieu, de quelqu'un qui a été racheté par Dieu et dont le nom n'est pas celui de mes parents, mais le nom de Dieu. Je crois que Dieu veut que nous arrivions à être ainsi. Être fier de ses parents, c'est tout à fait normal. Mais d'être fier plus de ses parents que de Dieu, c'est un peu moins normal. Voilà. Alors, ignomen, ignominie. Voilà. Jésus dit, si vous êtes en pauvre en esprit, il n'a pas dit si vous êtes ignoble, ou si vous êtes dans l'ignominie, mais il a dit, si vous êtes dans vos zones d'ombre, et que vous avez conscience de vos zones d'ombre, vous êtes pauvre en esprit, vous le savez, ben vous êtes déjà sur le chemin de la lumière, et de la liberté, et même de la vie éternelle. Le royaume des cieux est à eux. On comprend que, finalement, Dieu martèle, je m'exprime comme ça, mais c'est un peu ça, Dieu martèle toujours la même chose. Nous avons tendance à ne pas lui faire confiance. Et ce que ça dit, ça a été dit, et puis c'est logique, c'est comme ça que ça se passe. Et le Seigneur Jésus nous aime tellement qu'il va réussir dans nos souffrances à nous faire comprendre que si nous n'avions pas ces souffrances, eh bien, nous ne serions pas là où nous en sommes. Ah, c'est ce que tu viens de dire. Et, ouais. Et je vais vous donner mon témoignage aussi, moi, parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui est en nous, qui est comme ça. Hein. Et quand Dieu vous impose un truc, une circonstance que vous ne pouvez plus, refuser, vous êtes obligé de lui dire, Seigneur, si tu veux que je meure, je suis d'accord avec toi. Je te fais confiance. Même si tu veux que je meure. Si je vous le dis, c'est parce que j'étais très malade et que, à l'époque, j'ai dit, Seigneur, voilà. Tu vois, il y a quelque chose. Mais si tu veux que je meure, et je le disais sincèrement. Peut-être que maintenant j'ai du mal à le dire. C'est plus difficile pour moi maintenant, peut-être, de le dire qu'à cette époque où j'étais en pleine chimio et puis que c'était fini, quoi. Hein, bon. Et puis, j'ai dit, tu vois, Seigneur, j'ai une petite dame qui est enceinte. Je ne voudrais pas qu'il soit orphelin. Voilà. Alors, si tu veux, hein, tu me laisses en vie. Mais si tu ne veux pas, c'est toi qui veux. Voyez. Donc, quand on est dans nos situations, où on est contraint, et où Dieu nous contraint. On dit, Seigneur, tu me contrains. Et on commence à s'énerver. Et on dit, Il m'est arrivé de dire, devant un enterrement, devant plein d'athées, écoutez, il y a trois personnes qui étaient là, sur le Golgotha. Il y en a une, elle s'énervait en disant, mais si t'es Dieu, tu me descends de là, tu descends toi-même et tu descends de la croix. Et tu t'occupes de moi. Il était encore en pleine révolte et avec ses zones d'ombre où il se disait « J'ai raison. Toi, tu dois sortir de ta croix, tu dois retirer les clous là, qui sont chez toi et chez moi. Hein, et on doit pouvoir partir. » Et l'autre devait faire à peu près la même chose. Mais on s'aperçoit dans les évangiles que l'autre dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ils sont en pleine ignominie, tous les trois. Il y en a un, c'est le Fils de Dieu, celui qui devait jamais ne connaître l'ignominie. Il y en a un autre qui était dans l'ignominie, mais pas l'impression de l'être. Hein. Et l'autre qui avait compris, et qui avait tellement compris, je ne sais pas comment il a fait d'ailleurs, il a compris qu'il serait, il pouvait espérer que Dieu, qui était cloué sur la croix à côté de lui, l'amène dans son règne. C'est une preuve de foi contrainte. Hein? Comme quelqu'un qui a une chimio, qui va mourir, ou qui va vivre, hein? Mais qui ne sait plus, et qui se dit, bah, tu vois Seigneur, bah, de toute manière je suis obligé de te faire confiance. Hein? Mais c'est pas ça. Le Seigneur veut que ça soit autre chose que ce. Tu sais Seigneur, tu m'as mis comme ça, mais je suis obligé de te faire confiance. Hein? Non, c'est, je te fais confiance. Vraiment, je m'abandonne à toi, comme toi, tu t'es abandonné dans les mains de ton Père, sur la croix. Il y a quelque chose là, l'ignominie, et quelque chose des zones d'ombre que nous avons, que nous devons retravailler. Et ça, on doit le faire tous les jours. Tous les jours. Et le Seigneur nous aide. Hein? Il nous aide. Et puis, je pense qu'on progresse. Mais quand je dis je pense qu'on progresse, c'est la joie d'un enfant qui comprend qu'il va grandir dans sa famille, mais qui ne va pas devenir fier d'être de cette famille et de dire un jour je suis le fils et je suis la fille d'un tel. Non, non, non. Et c'est ce qui se passe pour Jésus lorsqu'il console trois églises qui se trouvent dans l'Apocalypse. Trois églises. Il y a sept églises dans l'Apocalypse, hein, vous savez, hein, bien sûr. Dans la première, Éphèse, le Seigneur parle à l'ange et lui dit « Tu n'as pas renié mon nom au jour d'Antipas, lorsqu'il a été persécuté. » Et Jésus dit à cette église d'Éphèse qu'il est content de son développement, mais qu'il y a un problème, il y a une zone d'ombre, c'est que cet attachement a été terni par la croissance de l'église même. L'église, c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu assise sur sa fierté d'avoir un nom. Vous voyez je le traduis comme ça, hein. Alors, vous avez le droit de penser autrement. Hein. Ah, voilà. Mais vous voyez, pour Éphèse, c'est un peu ça. Mais les trois autres églises sont des églises minables, je dirais. J'ai eu l'expression. Des églises qui ne sont pas dignes de Dieu. Il y en a une, si, quand même. Jésus dit, oui, tu es vraiment minable, mais tu n'es minable qu'aux yeux du monde. Alors que pour moi, tu n'es pas minable du tout. C'est Philadelphie, hein, vous connaissez. Mais il y en a trois où le Seigneur Jésus encourage. Et je voudrais que ça soit pour vous un encouragement, parce que c'est vrai que c'est pas rigolo ce que je dis, hein. Nos zones d'ombre. Mais en fait, nous savons que les zones d'ombre que Dieu, c'est pas lui qui les a mis dans nos vies, hein. C'est Dieu qui les projette, enfin qui les met en exergue. On s'aperçoit des choses que l'on ne savait pas avant, et puis on se dit, mais Seigneur, comment ça se fait que je puisse être comme ça? Ça vous est déjà arrivé sûrement. Et puis, le Seigneur nous met ça sur le cœur pour que nous puissions nous abandonner à lui et faire un petit pas nouveau de foi avec lui. Voilà. Hein? Apocalypse chapitre 12, verset 17. Jésus parle aux anges, et en particulier à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, un endroit où Satan a sa demeure. Ça, dans l'histoire, on sait que de Babylone, là où les gens, faisaient des trucs bizarres avec l'occultisme, etc., tous ces prêtres-là, lorsqu'ils ont été chassés de Babylone, ils ont pris la direction de Pergame. Et après la direction de Pergame, quand Pergame a été attaqué, ils sont allés encore ailleurs, à Rome. Bon, alors, il y a des gens raffinés à Pergame, des gens très raffinés. Et ils ont des stratégies pour faire croire, pour faire tomber le peuple de Dieu. On en a parlé tout à l'heure. Des stratégies, Emmanuel nous en a parlé. Des stratégies, mais vraiment subtiles. Du genre, vous savez, vous êtes l'église de Dieu, hein. Si vous aviez un nom reconnu aux yeux du monde, c'est important. Ouais. Super. on va se mettre en association avec d'autres assemblées. On va faire ceci. Je n'ai pas dit que c'est mauvais hein, de mettre en association. Mais si vous voulez, c'est la démarche derrière, spirituelle. Pourquoi certaines églises évangéliques veulent avoir un nom qui soit reconnu aux yeux du monde? Pourquoi? Alors, ça, certains vous, répondront, non, c'est pour que le témoignage soit puissant et qu'il puisse être avancé dans le monde et qu'il puisse avoir de la puissance. Oui. Je peux imaginer qu'il y a des frères et sœurs qui sont complètement convaincus et qui le sont peut-être par le Seigneur. Mais vous voyez, par rapport à ce que nous disions au sujet de la fierté du nom. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de Shinéar, hein, de la plaine de Shinéar. Hein. Ils sont sortis de l'arche, ils ont commencé à se développer après le déluge, hein, et puis ils ont trouvé un endroit superbe, comme le jardin d'Éden. Un nouveau jardin d'Éden, super. On va reconstruire le jardin d'Éden même, et on va se faire un nom. Ils veulent se faire un nom. Alors Dieu vient voir, hein. Ils veulent tellement se faire un nom qu'ils se font une tour aussi pour ben justement leur nom. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne là-dedans? Oui, hein. C'est pas le nom de Dieu qui les intéresse, c'est de se faire un nom. Donc vous voyez la subtilité dont qu'on a évoquée tout à l'heure, par exemple, il n'y a pas que ça, c'est qu'une église se dise je me fais un nom reconnu par les hommes. En fait, être reconnu par les hommes, c'est Pergame. Puis finalement, c'est là qu'il y a le siège de Satan. Et il y avait une église, il nous est dit, hein, où il y avait des gens très raffinés, très intellectuels, qui avaient beaucoup de philosophie, super, ils avaient une façon de fonctionner. Enfin, je ne veux pas mépriser les intellectuels d'aujourd'hui, mais ils sont quand même, quand ils ne sont pas au Seigneur, ils sont appuyés sur leurs propres opinions et sur leur prétention à tout connaître. Alors que nous savons que nous connaissons pratiquement rien du monde. Et là-dedans, hein, il y avait des gens qui étaient gnostiques, ceux qui savent. Vous avez ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Vous avez les gens qui sont égaux, puis les gens qui sont un peu moins égaux que les égaux. Hein. Vous vous souvenez, quelqu'un qui avait dit qu'il y a des gens qui s'imaginent être plus égaux que d'autres. Et là-dedans, Jésus vient mettre son nez. Hein. Et Jésus encourage ceux qui ont refusé d'être comme ça. Donc, refusons cette philosophie ou cette idée que se faire un nom, c'est important. C'est le nom de Dieu qui nous intéresse. Et si parce que le nom de Dieu nous intéresse, que le reste, on laisse tomber. Je suis fils d'eux. Non. Non, je suis racheté par le sang précieux de Christ. Bon, évidemment, tout ce que je dis, c'est banal, je suis d'accord, mais on sent la subtilité du truc. Hein. Donc, Apocalypse, chapitre 2, verset 17, il nous est dit qu'à la fin, hein, de cette description de Pergame, Jésus dit celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Hein. Et moi, je traduis autrement un petit peu, c'est celui qui restera dans la victoire de Jésus. Hein. Celui qui vaincra, c'est celui qui reste dans la victoire de Jésus, pas dans la victoire de autre chose. La victoire de Jésus, c'est la victoire de Jésus qui nous permet d'être fondés. Celui qui restera dans la victoire de Jésus, je donnerai quoi? Je donnerai de la manne secrète. Caché, de la vraie manne céleste, de la bonne nourriture, pas le truc des gnostiques ou de toutes les philosophies. Non, je lui donnerai quelque chose qui le nourrira spirituellement. Et surtout, il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, il sera marqué quoi? Un nom. Et ce sera quoi ce nom? Un nom nouveau que ces gens-là ne connaissent pas. Dit Jésus. Nous cherchons le nom. Nous cherchons le nom, le vrai nom, le nom nouveau. Et on ne cherche pas à se complaire dans le nom que nous avons. C'est le nom de Dieu qui nous intéresse. Vous voyez? Il y a un peu cette idée. Hein. Et puis Jésus parle aussi à l'ange de l'église de Sardes. Elle aussi, elle est minable. Une église vivante. Elle est vivante. Et vous avez des églises vivantes. Ouais, ça marche, ça bouge. Et puis Jésus dit, oui, mais t'as pas beaucoup de vitalité spirituelle. C'est vivant, mais c'est pas vital. Vitalité spirituelle, pas terrible. Pour Jésus, elle est morte, nous a-t-il dit. Tous les chrétiens sont partis. Les vrais. Oh, il reste encore quelques hommes. Restez fidèles. Fidèles à Dieu. Mais pas beaucoup. Donc Jésus dit une chose. L'église de Sardes, je l'aime toujours. Il y a encore des gens là-dedans qui m'appartiennent. Oh, il y a tout un monde de gens un peu bizarres et morts, spirituellement. Mais il y a aussi encore des gens vivants. Et là, c'est curieux. Parce que dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, il nous est dit que celui qui restera dans la victoire de Jésus, eh bien, Jésus n'effacera pas son nom du livre de vie. Vous voyez ? Donc, c'est pas comme à Sardes, hein. C'est que là, on a l'impression que le nom, Jésus, il a l'air d'hésiter, enfin, j'exagère, hein, mais il prend son stylo, il dit, est-ce que je barre ou est-ce que je barre pas ? Non, 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 non. Je ne l'effacerai pas du livre de vie. Parce que dans cette église qui est morte, il y a encore des gens vivants. Ce qui fait me dire que, alors j'espère que ça ne va pas vous choquer, mais dans cette église de Sardes, j'ai l'impression que cette église de Sardes ressemble à l'église catholique. Oui, oui, j'ose le dire. L'église catholique est morte. Mais là-dedans, il y a des gens qui sont au Seigneur. Bon, mais c'est pas possible. Je veux dire que moi j'ai des contacts avec des cathos, vous aussi sûrement. Puis vous êtes embêtés, parce qu'ils sont là à vénérer la Vierge Marie, qui est morte, enterrée, et qui n'est pas ressuscitée ni partie, hein, est toujours en train d'attendre la résurrection des morts avec tout le monde, hein, comme n'importe qui. Et quand vous parlez avec ces gens-là, qui sont cathos, qui ont doctrinalement des choses un peu malades, vous dites, oh là là, Seigneur, pourquoi tu me mets dans ces situations-là ? Et vous apercevez qu'ils aiment le Seigneur. Et que pour eux, le salut, c'est en Jésus-Christ, par son sang précieux, et qu'ils ont été rachetés, et qu'ils vont ressusciter avec lui. Alors, vous avez ce genre de choses qui est décrite dans Apocalypse 3, 5. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et Jésus confessera son nom. Devant qui ? Devant son Père et devant les anges. Alors, mettons-nous un petit peu dans le film. On a l'impression qu'on est à la fin des temps. Et puis que Jésus est en train de faire le pointage avec les autres, hein, son père et puis les anges. Ah, celui-là, oh non, 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 pas celui-là. Et puis il dit, mais si, si, si. Et Jésus dit, si, il accepte mon salut. Oui, mais t'as vu la doctrine et les machins qu'il y a derrière. Mais c'est scandaleux, tu as vu tout ce que ça a donné en plus dans l'histoire, l'inquisition, les choses terribles. Et, non, mais lui, là, lui. Il a accepté le sang de Jésus-Christ. Bon, il a accepté que je sois mort pour lui. Je ne l'effacerai pas du livre de vie. Donc, dans l'église de Sardes, il y a presque un marchand de tapis entre Dieu le Père, Dieu le Fils et les anges, en train de se dire, attendez, il y a une limite là. Ils sont où à la limite? Ils sont au-dessus? Ils sont plus ou ils y sont encore dans l'église? Donc, il y a des zones là qui nous émeuvent. On se dit, voilà, Jésus... Il s'occupe encore de l'église de Sardes. Il s'en occupe encore. Parce qu'il aime son peuple. Ça, c'était le deuxième. Et le troisième. Jésus parle à l'ange de l'église de Philadelphie. Ouf, là, ça va mieux. On se sent déjà un peu mieux. Parce qu'en général, on aime bien être pris pour l'église de Philadelphie. Oh, nous, on n'est pas bien vus du monde, mais alors, nous sommes l'église de Dieu. Oui. Ouais. Faire attention, parce que on a encore... On aurait besoin d'ignominie un peu pour éviter de se rendre fier de ce qu'on est. Et l'église de Philadelphie, Jésus parle et il dit « Tu es vraiment toute petite. Tu n'es pas très puissante. C'est pas grave. Il y a de ceux qui se prennent pour des puissants qui vont venir avouer que tu es une église que j'aime beaucoup. » Et Jésus leur dit « au chapitre 3, verset 12, celui qui restera dans la victoire de Jésus, il sera comme une colonne. Et il aura un nom? Non, il aura trois noms. Trois noms. Il aura le nom de mon Dieu, il aura le nom de la ville de mon Dieu, et il aura le nom nouveau. Donc ce qui veut dire que ces gens-là, ils auront des médailles. Hein. Hein. Ouais. Et vous remarquez, dans ces trois églises de l'Apocalypse, elles ne sont pas vraiment prestigieuses. Elles n'ont pas de renom. Elles sont méprisables dans l'ignominie. Ceux qui sont dedans, dans ces églises, ces personnes, elles ne cherchent pas à se faire un nom sur terre. Non, non. N-O-N. Non, non. Elles sont dans l'ignominie. C'est parce que Dieu, Jésus leur donne un nom, un vrai nom. Hein, pas celui auquel on s'accroche quand on est petit. Le vrai nom, le nom nouveau que Dieu donne. On ne va pas construire dans le pays de Shinéar un autre endroit, une ville, une tour dont le sommet touche au ciel pour se faire un nom. Hein. Vous connaissez Genèse chapitre 11, verset 4. Hein. Voilà, on ne veut pas dire je suis un SDF. Hein. Non, non, on veut dire que je suis quelqu'un d'important. Alors, il faut que je m'installe dans la plaine de Shinéar. Je vous donne un autre exemple, c'est David. David va rapatrier l'Arche de l'Alliance de la maison d'Obed-Edom, qui était un homme pieux, je crois que c'était un Lévite, je crois. Et puis donc, à un moment donné, il pense qu'il faut quand même que l'Arche de l'Alliance soit rapatriée de la maison d'Obed-Edom à Jérusalem. Et donc, il va faire ça. Et donc, il rapatrie l'Arche de l'Alliance. Et puis, ce qu'on voit, c'est un petit peu bizarre, c'est qu'il se met à danser et à chanter. Et il est complètement dans... d'après ce qu'on voit dans le texte, hein, dans 2 Samuel 6, versets 12 à 23, hein, on voit que il aurait pu faire de cette Arche de l'Alliance un facteur de prestige, un truc publicitaire. Et, hein, Coca-Cola, c'est à Atlanta. Hein? Ouais, Atlanta et machin. Le cadavre de Marc, hein, l'évangéliste, a été ramené à Venise. Pourquoi? Enfin, on dit que c'est le cadavre de Marc, mais c'est sûrement faux, mais bon. Et puis Venise est devenue une plateforme commerciale énorme à la fin du Moyen-Âge. Pour faire un nom, on prend n'importe quoi. Puis ça veut faire un nom. Et puis lui, il aurait pu faire ça, David. En plus, c'est David, hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Et le fils de David, c'est pas n'importe qui non plus. Et ce David, il ramène l'Arche de l'Alliance, non pas parce que ça va lui donner du prestige, mais parce qu'il est content que l'Arche de l'Alliance ait retrouvé son lieu. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est tout. C'est tout. Et alors, il se met devant l'Arche, et il se met à danser, à chanter, comme un fou. Comme un fou. À tel point qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lui dire, mais dis donc, tu te rends compte? Mais t'es méprisable. Tu fais comme ces gens-là qui dansent et qui chantent là devant l'arche, mais c'est nul. C'est minable de ta part. Et lui dit, non, non. Il est réjoui d'avoir fait revenir le témoignage de Dieu comme il le fallait. Mais il ne veut pas du nom prestigieux. Il dit, il désire même s'abaisser, dit-il, aux yeux, à ses propres yeux et aux yeux des servantes qui sont là et qui sont méprisables. Voilà. Il comprend qu'il pourrait être orgueilleux. Son nom, c'est David, verset 22. L'ignominie, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas du tout. Il en a tellement vécu depuis sa jeunesse, David. Même son père l'a oublié. Il sait ce que c'est. Et dans le psaume 40, vous lirez le psaume 40, vous voyez le premier verset, il est important. Le psaume 40, dans le premier verset, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. J'ai attendu. » Sous-entendu, c'est « J'ai attendu. » J'étais dans l'ignominie quand j'étais petit. J'étais le berger, vous savez, un berger, c'est Même en Israël, c'est rien, un berger. Nous, on aime bien le bon berger parce qu'on sait que le bon berger, c'est Jésus. Mais être un bon berger, c'est un métier minable. C'est même pas un métier, c'est simplement garder les bêtes, c'est tout. Point. Hein? Et dans le psaume 40, il dit: j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il a attendu d'avoir l'espérance de Dieu. Et il a attendu longtemps. Il a attendu longtemps. Et à un moment donné, il a eu un nom. David. Mais au fait, on ne va pas parler du nom de Dieu. Si vous cherchez le nom de Dieu, est-ce que vous allez le trouver? Vous allez me dire: mais si, il s'appelle Elohim, il s'appelle Yahvé, il s'appelle Emmanuel, il s'appelle. Mais quand vous regardez tous les noms de Dieu, c'est soit un adjectif, soit un verbe. Il a un nom, Dieu. Bon, par exemple, il y en a un. Il est fini. Il a fini sa carrière. Enfin, il n'a même pas fini sa carrière. Il a voulu faire une carrière de politique à l'âge de 40 ans. Puis ça a foiré complètement. Et il s'est retrouvé 40 ans plus tard, fini. Il va mourir. L'ignominie, c'est lui. Lui, il incarne l'ignominie. Enfin, il sait même plus parler. Hein? Il sait plus parler. Et puis il voit un buisson qui est en train de se consumer, il comprend pas, et je résume, hein, bien sûr, et il dit: mais si je viens devant ce peuple, parce que le buisson commence à lui parler, hein, vous savez qui c'est Dieu. Et le buisson qui se consume sans se consumer, il lui dit: il faut que tu y ailles. Mais il lui dit: mais je suis rien, moi. Je ne suis rien. Moi, je préfère être rien et être envoyé par Dieu, hein, que d'être quelqu'un et d'être évincé par Dieu. Mais lui, il est rien. Rien. Il est dans l'ignominie. Et donc, il répond à Dieu et il dit: et si je viens devant ce peuple, toi qui te dis être le Dieu de mon père, Abraham, Isaac et Jacob, à moi qui suis fini, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je connais même pas ton nom. Qu'est-ce que je vais leur donner comme nom? Ils vont pas me croire. Alors Dieu lui répond: tu leur diras, celui qui suit, m'envoie vers vous. Ouais, quand vous regardez ce nom, hein, en hébreu, c'est Yahvé, en fait c'est plutôt Yévaï. Yé, ça veut dire j'étais, et Vaï, ça veut dire je serai. Donc ce personnage qui s'appelle Dieu se présente et qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce qui refonde Moïse qui a perdu son nom, il se retrouve avec un nom, il est d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout d'un coup. Il a repris un petit peu du poids de la bête, quoi. Hein, et il lui dit: moi je m'appelle j'étais, je serai, je suis. C'est-à-dire que Dieu nous donne un nom qui n'est pas un vrai nom, qui est un verbe, plusieurs verbes, au passé, au futur, au présent. Mais les Juifs, eux, ils disent qu'ils n'osent pas le prononcer. Hein. Donc, vous voyez, j'ai péché, là, j'ai osé lui en parler, mais les Juifs ne le prononcent pas. Parce qu'ils estiment que, comme ça, le troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, comme ça, ils sont sûrs de ne pas le prononcer en vain. Mais enfin, justement, nous, on veut en parler. Il n'est pas question de ne rien dire, mais plutôt de dire qui est Dieu. Voilà. Alors Dieu, pour lui, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Ou plutôt, il y a tout en même temps. Il est le créateur de tout, ça a été encore évoqué tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le temps. Et pour lui, tout est en même temps. Je ne comprends pas. Il est au-dessus de sa création, au-dessus du ciel, au-dessus de la matière. Il n'est pas soumis à sa propre création. Il est autre. Et certains avaient une notion de Dieu, et encore beaucoup aujourd'hui en ont. Et il y a d'ailleurs une théorie actuelle que vous devriez étudier, voir, qui est un peu louche, hein, qui est arrivée depuis Darwin, de la part de chrétiens, hein, de chrétiens engagés, hein, qui s'appelle la théologie du process, consiste à voir les choses d'une autre façon, parce que nous, on a trop tendance à prendre Dieu pour une entité, enfin, d'identifier Dieu, d'essayer de se le concevoir. Alors peut-être que dans cette théologie, il y a quelque chose à prendre, on n'en sait rien, mais il faut faire gaffe. Et certains ont une curieuse idée de ce qu'est Dieu. Ils imaginent que Dieu est contraint par les événements. Dieu serait contraint par les événements. Il serait inférieur à ces événements. Le ciel, la terre, les forces physiques, électromagnétiques, tout ça, voilà. Dieu serait contraint par ça, il serait obligé de faire avec. Vous voyez? C'est drôle, hein? Mais ça nous parle, hein, parce que, bon, on est un petit peu dans ce cas-là. Hein. Mais il est intemporel. Il n'est pas contraint, il est au-dessus de tout ce qu'il a fait. Il est intemporel. Mais au fait, est-ce qu'il a donné son nom? Ou pas du tout? En fait, si on réfléchit bien, on s'aperçoit que Dieu n'a jamais donné son nom. Il est sans nom, un peu comme quelqu'un d'igno. Migneux? Pas possible. C'est Dieu. Comme s'il était lui-même dans l'ignominie de ne pas avoir de nom, de renom. Et dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et certains disent, voilà, déjà là, Dieu sort de lui-même pour créer quelque chose. Et il s'abandonne lui-même pour faire quelque chose. Oh, pardon. Hein? C'est comme s'il se séparait d'une partie de lui-même pour produire ce qu'il est, lui-même, la lumière. Hein? Et c'est comme s'il disait, je me suis donné, je suis la lumière. Et c'est dans Jean chapitre 1, Paul Craddock nous en a parlé déjà, en disant, voilà, du verset 1 à 5 de Jean 1, Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui, on sait, et tout a été fait par elle, les cieux, la terre. Et c'est déjà dans le début de la Genèse, il y a déjà le don de Dieu. Dieu se sépare de lui-même tout en étant le même. Oh, j'ai du mal à comprendre, hein. J'essaie de vous faire comprendre un truc que j'arrive pas à comprendre. Mais voilà, il y a quelque chose qui est lié à l'amour de Dieu et à sa volonté de créer. Et Dieu n'a pas toujours donné pas son, il n'a toujours pas donné son nom. On est à sa recherche, on est à la recherche du nom de Dieu. Nous souhaitons connaître le nom de Dieu. Et Jacob dit, dans Genèse 32, 29, il s'est bagarré toute la nuit avec un ange, un truc. Et il dit, dis-moi ton nom. Et l'ange de l'Éternel répond, pourquoi tu demandes mon nom? Il ne répond pas. Il ne connaît pas son nom. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est la prière, l'antienne répétée par diverses religions. Notre Père qui est aux cieux, Dieu est au ciel. La première chose que Jésus rétablit, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que le nom de Dieu a été attaqué. Et le nom de Dieu, c'est quoi? Eh ben, on le saura un jour. Mais on a des noms de Dieu. Mais le nom de Dieu, véritable, je dirais, on ne connaît pas bien. Jésus, quand il dit la prière du Notre Père, il dit que ton nom ne soit plus dans l'ignominie, dans l'état d'être sans nom. Mais comment vas-tu t'y prendre pour nous montrer ton nom, Seigneur? Hein? Eh bien, c'est quand on veut mettre son nom en avant. C'est ce que dit Dieu dans l'Apocalypse. Il dit, je veux mettre mon nom dans votre cœur. Je veux mettre mon nom en vous. Hein? Et dans Philippiens, au chapitre 2, et on s'arrête là. C'est déjà bien. Dans Philippiens, chapitre 2, vous connaissez très bien le passage, je pense. Hein? C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et vous voyez que à cause de son ignominie, il nous a dit que Jésus a méprisé la croix, a méprisé l'ignominie. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Il nous a dit ici, au chapitre 2 de Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ça, c'est ce que Dieu a fait. Il a réussi à être plus humble que moi. Ouais, c'est facile, on dirait, ça c'est sûr. Enfin, je dis c'est facile parce que moi j'arrive pas, hein, mais quand on pense à Dieu, qui se met dans l'ignominie, mais on a le droit de se poser des questions, de se dire mais comment ça se fait? Et d'être en adoration devant un Dieu tel que celui-là. C'est pas le Dieu qu'on attend, qu'on entend dans les religions officielles ou dans les faire-valoir pour faire la guerre. Non. Que chacun, verset 4, de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Comme la parole de Dieu est équilibrée, elle ne vous demande pas de vous abandonner et ne pas en penser à vos intérêts. Hein. Il dit les autres aussi. Et au même titre, verset 4. Ayez en vous les dispositions d'esprit que Dieu avait. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, nous avons l'itinéraire d'humiliation et d'ignominie de notre Seigneur Jésus. Hein, vous connaissez. Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à laquelle il s'accrochait à ce nom-là. Non. En prenant une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Il aurait pu être serviteur comme un ange, mais il a été moins qu'un des anges, il est devenu un homme. Puis comme un homme, il aurait pu être un homme prestigieux. Hein, et il est paru comme un vrai homme, c'est-à-dire un homme qui est authentique et qui ne fait pas le prestigieux. Mais non, il n'est pas arrêté là. Il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire que même un homme ordinaire, il n'a pas voulu l'être. Il a voulu être moins qu'un homme ordinaire. Il a été comme ce SDF-là, je ne sais pas dont on a parlé, hein, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alors c'est encore pire que ça. Il a voulu mourir. Et puis il aurait pu avoir une belle mort avec une grande, de grands fastes pour des grandes pompes pour cette mort, mais c'était la mort de la croix. Donc on voit qu'il était dans un itinéraire d'humiliation et qu'il nous dit ben, il faut faire la même chose. Alors moi, bon, je veux bien, mais j'ai toujours mes ondes d'ombre. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu as été improbable. Tu as montré une force d'amour pour ta création, capable d'effacer tous les problèmes que Satan y a introduits. Tu es venu dans l'ignominie. Tu es venu comme un simple homme. Tu n'avais aucun éclat, aucune beauté pour attirer nos regards. Et puis, c'est comme si nous étions là, nous aussi, on t'a méprisé. Et encore aujourd'hui, Seigneur, je confesse que j'ai du mal parfois à te placer à l'endroit où tu dois être. J'essaye et je compte sur toi pour que tu éclaires mes zones d'ombre. Merci Seigneur, parce que si tu fais ça, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est bien justement pour nous faire parvenir à la perfection. Louange à toi, Seigneur. Amen.